Vous écoutez RTL.
Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie.
Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi.
Quelle curiosité, t'as vu un effet.
Ça plane pour moi.
RTL. Jusqu'à 22h. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Utilise, parle et chante le plastique. Trio Plastique Bertrand Scheim ou encore le groupe Tremblay, il nous habille, il nous emballe, il décore nos intérieurs. Le plastique est absolument partout. Alors, fabrication, pollution, recyclage, on va retracer l'histoire de ce matériau du quotidien avec notre invité Ludovic Fournier. Bonsoir.
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 Soyez le bienvenu.
Merci.
Vous êtes médiateur scientifique au Palais de la Découverte à Paris. On adore les étymologies, c'est notre petite gourmandise à nous. Le mot plastique, il vient d'où ?
Alors bah du coup le mot plastique en fait vient d'une de ses propriétés qui est la plasticité, puisque certains matériaux vont avoir la particularité de pouvoir être sous la pression, sous la chaleur, sous la contrainte, d'être déformés, puis on va pouvoir ensuite les mouler. On va parler de plasticité et ces matériaux plastiques ont cette particularité de pouvoir être moulés, modelés.
Mais et donc, c'est bien du grec ou de...
Du latin, du biélorusse.
Plasticos, effectivement, grec, plasticos. Mais voilà, c'est vraiment la propriété de plasticité qui est à l'origine du terme plastique. Et aujourd'hui, tous les plastiques n'ont pas forcément cette propriété de plasticité.
Alors, on peut vous dire joyeux anniversaire, pas à vous directement, parce que vous n'avez pas 80 ans, mais plutôt le Palais de la Découverte.
Et à cette occasion... Vous ne le faites pas. Hein.
Oui, effectivement, je ne le fais pas encore.
Le Palais de la Découverte fête ses 80 ans et vous animez un exposé qui s'intitule « Les plastiques se déchaînent depuis 1937 ». Pourquoi cette date ?
Alors, pourquoi 1937 ? Parce que 1937, c'est l'ouverture du Palais de la Découverte, ouvert par Jean Perrin. Et du coup, l'idée de cet exposé est de retracer un petit peu l'histoire du plastique et de la retracer au travers le Palais de la Découverte, parce que bah, le plastique a connu une expansion à partir des années 40 et le Palais, en suivant la recherche en train de se faire, a suivi l'histoire du plastique.
Qu'est-ce qu'on sait du plastique en 1937
Alors, qu'est-ce qu'on sait du plastique en 1937 ? Voilà une bonne question. On va
c'est
repartir.
Gentil. Hein.
Ah, parce que les autres avant, elles étaient en carton,
ouais,
les questions.
Celle de Sidonie était moins bien, c'est sûr.
Non, ça va. C'était pas mal.
C'était correct quand même.
C'était correct.
Attention à vous, hein. Vous ne connaissez pas bien.
Alors, qu'est-ce qu'on sait du plastique ?
Alors, bah, du coup, ce que je propose, c'est de remonter un tout petit peu dans le temps, oui. De remonter un tout petit peu avant l'ouverture du Palais de la Découverte. On va remonter quelques années plus tôt. On va aller dans les années 1860. Mm-hmm. Et on va pas parler de l'histoire du plastique, mais on va parler d'une histoire du plastique. Pourquoi une ? Parce que quand on lit un petit peu la différente littérature sur ce sujet, il y a pas mal d'informations qui se croisent, qui sont pas toujours identiques. Donc j'en propose une. Je vais pas bien sûr raconter tout parce que ça prendrait beaucoup de temps. J'ai donné trois jalons importants, trois étapes importantes qui se sont déroulées avant 1937. Pour répondre à la question de qu'est-ce qu'on connaissait avant 1937. Première étape, on est en 1869. On veut remplacer l'ivoire des boules de billard. Alors pourquoi est-ce qu'on veut remplacer l'ivoire des boules de billard ? Il y a un problème. L'ivoire, bon, j'imagine que du coup vous avez dû entendre parler des éléphants. Donc à l'époque,
ah bon hein, pour... C'est des
éléphants. À l'époque,
pour... vous prenez vraiment pour des crétins. Ah oui, on part de loin quand même.
Non, pas du tout.
Je plaisante. Je vous chambre.
Alors, Charlie, vous inquiétez pas.
Du coup, l'ivoire était utilisé pour fabriquer les boules de billard.
Oui.
10 000 éléphants par an étaient tués pour obtenir
pas raisonnable du tout.
L'ivoire. Ouais. Pas raisonnable. Et on va vouloir remplacer l'ivoire des boules de billard par autre chose. Alors le problème, c'était pas vraiment le fait de tuer des éléphants. Le problème, c'était que les boules de billard en ivoire n'étaient pas suffisamment lisses pour pouvoir aller tout droit. Et donc du coup, voilà.
Et alors par quoi on remplace par
Eh ben par un matériau qu'on va appeler le celluloïde.
Qui est dérivé de quel
celluloïde. Cellulose. Ouais. On va prendre la cellulose de l'arbre et à partir de la cellulose de l'arbre, on va fabriquer le celluloïde qui va permettre comme ça d'obtenir les premières boules de billard et c'est le tout premier plastique qui va commencer à être utilisé.
Alors numéro 2, la bakélite, le bakélite ?
Eh oui, vous avez parfaitement raison, numéro 2, bakélite. On est en 1907, parfois on parle de 1909. On va avoir un monsieur qui s'appelle Beckland. Alors d'ailleurs, hein, pour ceux qui aiment jouer au Trivial Poursuite, c'est une question du Trivial Poursuite.
Je prends des notes. Hein.
Voilà, prenez des notes. Donc, Bakélite, Beckland. Mmh. Beckland qui va, à partir d'une matière première qui n'est plus végétale cette fois-ci, mais qui est fossile, puisque c'est le charbon, il va utiliser le charbon pour fabriquer un plastique, la bakélite, qui va servir notamment à faire des radios, à faire...
À des postes téléphones. De radio.
Oui.
Les téléphones. Nos auditeurs nous écoutent peut-être... Encore et toujours avec des postes de bakélite. On l'utilise encore aujourd'hui.
Téléphone noir.
Alors,
en bakélite,
l'utilisation de la bakélite aujourd'hui, je sais pas trop. Faut le vérifier. Je peux pas.
Aujourd'hui, Ludovic Fournier, on estime à combien la production de plastique dans le monde. Ça représente quoi en, je sais pas, en tonnes, en millions de tonnes.
Ah bah justement, voilà une bonne question. Je peux même inviter avant de répondre à cette question-là, je peux même inviter les auditeurs à regarder autour d'eux. Rien que déjà pour voir les quantités de plastique, bon, les quantités, les différents matériaux en plastique qui existent.
Alors la nappe en plastique.
C'est une bonne idée. Alors, si on regarde autour de nous là.
Les couverts en plastique.
Les couverts en plastique.
Ouais.
Bah là du coup, juste devant vous, il y a, pas mal de choses.
Ah oui, alors, le micro.
Il peut y avoir effectivement le micro,
le téléphone portable.
Le téléphone portable. Tout n'est pas en plastique à l'intérieur.
Ma bouteille.
Oui, voilà, l'un des emblèmes du plastique. Les bouteilles d'eau, les sacs poubelles. Les vêtements, quand on voit polyester, polyamide, c'est de la matière plastique.
Ah, c'est du plastique, le polyester.
Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tous ces objets, pourquoi est-ce qu'on fabrique autant de plastique? Bah, tout simplement parce que le plastique permet d'avoir plein de propriétés différentes.
Mmh.
Et donc, aujourd'hui, c'est en 2015, si on prend en 2015, il y a eu 322 millions de tonnes de plastique qui ont été produites.
Et si on compare avec, par exemple, 1950, ça fait, je sais pas, vous dites que c'est une production exponentielle, c'est quel rapport?
Bah, 1950, on est à environ 2 millions de tonnes. 2 millions de tonnes en 1950 et on passe à 322 millions de tonnes aujourd'hui.
Donc la production est multipliée par 161, quelque chose comme ça.
Alors j'ai pas fait calcul.
Je suis très bonne en calcul mental, vous avez vu.
Bravo aussi, Denis. Donc on a dit celluloïde, on a dit bakélite, puis il y a une troisième étape qu'il faut rappeler rapidement.
Et oui, une troisième étape, effectivement, celle du nylon, où on va commencer à fabriquer la matière plastique, non plus à partir du charbon, mais à partir du pétrole. On est cette fois-ci en 1935 avec un monsieur qui s'appelle Carothers et qui va du coup développer le nylon.
Savez-vous comment on fabrique du plastique? On vous le fait découvrir dans un instant sur RTL.
Ça plane pour moi. Ça plane pour moi.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Il est partout dans notre quotidien, tous les objets, les lunettes, les téléphones portables, les fenêtres, les meubles, j'en passais des meilleurs. On vous parle du plastique sur RTL dans la curiosité avec Ludovic Fournier qui est médiateur scientifique au Palais de la Découverte. Grâce à vous, on a appris qu'il y avait eu trois phases. Hein. D'abord le plastique sorti des plantes, ensuite du charbon et puis du pétrole. À partir de quand on a commencé vraiment à le transformer et à en faire vraiment un objet du quotidien dès le début? C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on crée les premiers objets en plastique?
Alors, dès le début, ça reste assez marginal. Hein.
Ouais.
Donc, ça commence à la fin des années 1800. Ça reste très marginal jusque dans les années 1940, hein, où la production, c'est 2 millions de tonnes maximum. Mm-hmm. Ça commence un petit peu à entrer dans le quotidien, mais avec les deux guerres, et puis la dernière, 39-45, on va remplacer pas mal de matériaux utilisés par le plastique. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir un véritable essor du plastique, qu'on va remarquer que juste avant ça faisait... On pensait que ça faisait cheap, hein, le plastique.
Ouais.
Et à partir de ce moment-là, on va quand même commencer à beaucoup plus l'utiliser.
Et c'était une matière difficile à travailler? C'était un matériau dangereux?
Alors, est-ce que c'était un matériau dangereux? Est-ce que c'était dangereux de fabriquer du plastique? C'est une question qui est très bien et qui va me permettre de rebondir aussi sur un autre point, parce qu'on parle souvent, en tant que chimiste, je suis souvent confronté à la dangerosité. Est-ce que les substances en chimie qu'on utilise sont dangereuses? Et j'aimerais juste faire une toute petite différence entre le risque et la dangerosité. Puisque une matière, une substance chimique peut être dangereuse, elle peut poser des problèmes, créer la mort par exemple. Là du coup on peut dire que c'est dangereux.
Mmh.
Mais si vous n'êtes jamais confronté à cette matière, ce n'est jamais en présence de cette matière, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de risque. Donc, du coup, par rapport aux matières chimiques utilisées avant et maintenant, il n'y a pas plus de dangerosité avant que maintenant. Par contre, aujourd'hui...
Mais peut-être qu'on se posait moins la question.
Et voilà, on se posait moins la question, donc on était plus facilement exposé aux différentes matières qui permettaient de fabriquer le plastique, donc il y avait plus de risques. Aujourd'hui, on fait plus attention, moins d'exposition, et du coup moins de risques.
Aujourd'hui, ça vaut presque rien. Le plastique, c'est aussi pour ça qu'on le voit partout. Est-ce que c'était le cas, je ne sais pas, par exemple, avant la Seconde Guerre mondiale, avant l'explosion de l'utilisation ?
Alors oui, effectivement, il y avait une baisse des coûts. Par contre, encore une fois, le matériau paraissait cheap à l'époque. Et ce qui va vraiment supplanter, c'est d'une part le coût de production et aussi le fait que ça permet de faire des économies. Par exemple, produire de l'aluminium, ça va demander presque 15 fois plus d'énergie que de produire du plastique.
Ludovic Fournier, dans votre exposé au Palais de la Découverte pour fêter ses 50 ans et raconter l'histoire du plastique,
ans.
C'est 80 ans, vous mettez dans la peau, entre guillemets, d'un sac poubelle.
Oui.
C'est drôle.
J'aime bien.
Ça vous va bien, le sac poubelle, ou pas?
Bah, forcément, tout me va.
Mais évidemment.
Le sac poubelle, c'est bon, je sublime à merveille le sac poubelle, aucun problème là-dessus.
C'est comment un voyage dans un sac poubelle?
C'est absolument extraordinaire.
Vous nous racontez?
Si vous n'avez jamais fait, je vous invite à faire ce voyage absolument sensationnel au cœur d'un sac poubelle. Du coup, j'aime bien justement tactiler le visiteur qui vient au palais là-dessus, puisque venir pour voir un sac poubelle, l'idée...
C'est gonflé.
C'est gonflé. Alors l'idée étant de réussir à comprendre ce qu'est le plastique à travers ce voyage. Donc on fait différents zooms à l'intérieur de la matière pour voir ce qu'est ce sac poubelle en plastique, sac poubelle classique, en polyéthylène. Quand on fait un premier zoom dessus, eh bien on constate que c'est constitué de spaghettis microscopiques qu'on appelle des polymères.
Ouais.
Alors, on est content de savoir ça.
Bon.
Le problème, c'est que si on ne sait pas ce qu'est un polymère, ça n'aide pas. Alors on continue le zoom, on fait un zoom sur un de ces polymères. Et quand on fait un zoom sur un de ces polymères, on constate qu'il est constitué de plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de molécules. Dans le cas du sac poubelle en polyéthylène, c'est des molécules d'éthylène. Une molécule d'éthylène,
c'est quoi l'éthylène déjà ?
C'est une molécule qu'on va pouvoir fabriquer à partir du pétrole.
D'accord.
Donc une molécule d'éthylène, coller une molécule d'éthylène, coller une molécule d'éthylène, et en faisant ça, on obtient le polyéthylène. Et je peux même vous poser une question. À votre avis, le polystyrène, à partir de quoi est-il fabriqué ?
Le polystyrène, je vais vous dire, à partir de
différents tyrènes.
Alors du pétrole, et effectivement, poly veut dire plusieurs, et cette fois-ci, c'est le styrène. Une molécule de styrène.
C'est juste l'étymologie qui m'a rendu service, là, Thomas. C'est pas la science.
Mais le plastique, c'est... On peut prendre le polypropylène. Polypropylène, bah, plusieurs molécules de propylène collées les unes aux autres.
D'accord. Et alors, on utilise donc du pétrole pour faire du plastique, mais on l'utilise aussi pour beaucoup d'autres choses. Et d'abord pour se chauffer, pour circuler le pétrole.
Oui.
Quelle quantité de la consommation annuelle de pétrole est consacrée au plastique ?
C'est ça qui est extraordinaire, c'est que donc on parlait de quantité de plastique, on parlait de 322 millions de tonnes de plastique fabriqué en 2015, et ça correspond à peu près à 5% du pétrole. Il faut 5% du pétrole pour obtenir les 322 millions de tonnes de plastique.
Donc c'est un rendement important, évidemment, et ça,
oui,
explique, ça explique le développement du plastique.
Ça explique, entre autres, le développement du plastique, oui.
Pourquoi vous nous avez cité plein de mots à base de poly et de éthylène, etc. Pourquoi il y a autant de matières de plastique? Pourquoi le plastique est si divers?
Ce qui est génial, quand vous prenez par exemple un classeur en polypropylène et un sac poubelle en polyéthylène, ils n'ont pas du tout les mêmes propriétés.
Le sac est moelleux et souple, et le classeur est dur.
Plus rigide,
solide,
voilà. Alors,
rigide.
Moelleux, souple, et surtout, il va être étanche à l'eau aussi, hein, ce sac poubelle. Et donc, on a des propriétés différentes en fonction de la molécule de base. Si je prends de l'éthylène et du propylène, je n'ai pas les mêmes propriétés. Et après, je vous ai dit que ces molécules-là formaient ce qu'on appelle des polymères, ces spaghettis microscopiques. En fonction de comment ils sont assemblés les uns par rapport aux autres, on a des propriétés différentes encore.
Alors, on ne peut pas raconter tout de la fabrication, évidemment, de tous les objets en plastique, mais est-ce qu'il y a une étape clé dans la fabrication du plastique ?
Alors, c'est même mieux qu'une étape clé, c'est qu'il y en a trois. Des étapes clés, trois étapes clés. La première, c'est de fabriquer la molécule de base. On parlait d'éthylène, on parlait de propylène, il faut la fabriquer soit à partir du pétrole, soit à partir du charbon, soit à partir des végétaux. Ensuite, une fois qu'on a ces molécules, il va falloir coller ces molécules les unes derrière les autres. C'est une étape qu'on appelle la polymérisation. Et ensuite, il va falloir assembler les polymères. Je peux vous donner une image.
La polymérisation, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on les chauffe, ces molécules ? Comment on les assemble, en fait ?
Alors, du coup, ces molécules, on va avoir... C'est le chimiste qui va les mettre ensemble. Et puis,
d'accord,
en fonction de certaines conditions, ça peut se faire tout seul. Ou alors, on peut utiliser des ultraviolets, on peut utiliser de la chaleur, on peut utiliser... Il y a un exemple que j'aime bien donner, si j'ai un tout petit peu de temps.
Allez-y, ouais.
C'est de faire l'analogie avec les trains. Parce que la polymérisation, on peut l'imaginer avec les trains, par exemple, pour faire un train qui transporte des voyageurs, on peut mettre des voitures. Donc la voiture, c'est la molécule de base, et puis en collant toutes les voitures les unes derrière les autres, on fait ce qu'on appelle la polymérisation, on met les voitures les unes derrière les autres, on obtient le train. On peut mettre aussi des wagons pour transporter des marchandises. Dans ce cas-là, la molécule de base, c'est le wagon. Et on obtient un polymère, le train, qui permet de transporter des marchandises. Alors, vous pouvez même vous amuser à mixer les deux. Vous pouvez mettre des wagons et puis, des voitures. Et du coup, vous allez transporter à la fois des voyageurs et à la fois des marchandises. Ouais. Vous pouvez avoir 10 wagons, vous pouvez avoir 5 wagons. Vous allez pouvoir transporter plus ou moins de marchandises.
Mmh. On a compris, grâce à vous. C'est super clair. Dans un instant, on va même faire des expériences avec notre invité.
On va le laisser faire, en fait.
Hein. Oui, bah oui, on va le regarder surtout. Et vous pouvez nous regarder sur RTL.fr. Pour la vivre avec nous, à tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
Le plastique, c'est fantastique. Le caoutchouc, super doux. Nous l'affirmons sur mon fesse. Nous sommes adeptes du latex. Le plastique, c'est fantastique.
Le plastique, c'est fantastique. Vous vous rappelez de cette chanson du groupe Elmer Fullbeat. Oh, il nous manque. Revenez. Bon, le plastique, c'est fantastique. Mais pas que, c'est polluant aussi. On découvre l'histoire de ce matériau incontournable avec notre invité Ludovic Fournier, médiateur scientifique au Palais de la Découverte. Vous nous faites découvrir toute la variété des plastiques, de cette matière moelleuse ou solide ou étanche, ça dépend de son utilisation évidemment. Et vous allez nous faire une expérience maintenant à base de polyacrylate de sodium. Alors déjà, à quoi ça sert ?
Bah du coup, je vous propose de faire l'expérience et puis après, je...
Ah, vous nous direz ce que c'est après ? D'accord.
Alors, il faut décrire ce que vous faites. Hein.
Alors,
vous faites
tout sur
radio,
RTL.fr, sinon évidemment, on va vous le décrire parce qu'on est à la radio.
Allez-y, c'est parti.
Alors bon, déjà, je fais quelque chose que normalement le chimiste évite de faire, c'est faire des expériences assises. Donc là, je suis assis, j'ai pas ma blouse, mais bon, c'est pas grave, on fait une entorse pour aujourd'hui. Alors, j'ai un bécher en verre. Alors, pour ceux qui connaissent pas le nom bécher, c'est un verre doseur, un verre mesureur en cuisine. En chimie, on appelle ça un bécher. À l'intérieur de ce bécher, j'ai mis quelques millimètres de hauteur d'une poudre plastique qu'on appelle le polyacrylate de sodium. Et pour ceux qui ont la chance de voir l'image, j'ai amené avec moi de l'eau et cette eau, j'ai ajouté un colorant pour que ce soit plus visuel. Ça marche bien évidemment, même s'il n'y a pas de colorant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par verser cette eau à l'intérieur.
Il a l'air bon, votre cocktail.
Bah, même mieux que ça. Parce que du coup, lorsque l'on retourne...
Mais c'est solide, le plastique s'est solidifié, le verre ne se renverse pas, rien ne se renverse à l'intérieur.
Alors, est-ce que c'est...
Comment ça marche ?
Comment ça marche ? Ben attendez, même mieux encore, même mieux, je vais faire mieux. Je vais aller un tout petit peu plus loin.
Donc vous rajoutez autre chose ?
Je rajoute encore de l'eau.
Ouais.
Avec un autre...
Qui est rouge cette fois-ci ?
Oui, alors je vais juste attendre quand même quelques secondes, parce que ça marche bien, mais du coup, il faut attendre que bien tout... ici, là, comme ça.
Alors là, on voit donc ce verre, ce bécher que vous avez retourné. Donc il y a deux couleurs. Hein. Moi, je vais
voilà,
décrire ce que je vois sans le comprendre.
J'ai mis deux fois de l'eau. En fait.
Vous avez mis deux fois de l'eau.
Une eau colorée en jaune et une eau colorée en rouge pour que ça fasse joli. Bien évidemment, hein, mais ça marche même si l'eau n'est pas colorée.
Et donc, elle ne se renverse pas, cette eau. Hein. Vous avez retourné le verre,
voilà,
elle se renverse pas.
Donc c'est un plastique, si je comprends bien avec mes mots de profane, super absorbant, quoi, le polyacrylate de sodium.
Effectivement, un plastique super absorbant, il est capable de piéger des quantités phénoménales d'eau. En gros, avec 20 grammes de ce plastique, on piège jusqu'à 1 litre d'eau du robinet. 1 litre d'eau du robinet, ça fait 1000 grammes. Dans 20 grammes de plastique, on fait rentrer 1000 grammes d'eau. Et cette eau, elle est toujours liquide. Attention, on a l'impression comme ça, on pourrait penser que c'est de la glace. Pas du tout.
Ah
hein.
Oui, c'est vrai.
L'eau n'est pas devenue solide. Elle est toujours liquide, mais piégée dans des grains de plastique solides.
À quoi ce plastique sert ? Bah, au quotidien, on le retrouve dans quel produit du quotidien ?
Eh bien, l'un des produits du quotidien dans lequel on le retrouve le plus, c'est les couches culottes.
Ah oui ?
Les couches culottes, puisque l'urine, c'est principalement de l'eau. Et on va pouvoir s'en servir pour piéger l'urine, donc piéger l'eau que l'on va produire, que les enfants vont produire.
Est-ce qu'on peut aussi s'en servir en cas d'intempéries, d'inondations ?
Alors oui, il y a plusieurs applications de ce plastique. La principale application de ces plastiques super absorbants, ça reste malgré tout les couches culottes, mais on peut aussi le trouver. Vous savez, quand vous allez au supermarché, vous achetez des barquettes de viande ou des barquettes de fruits. La viande et les fruits sont toujours posés sur une petite feuille de papier. On pense que c'est une feuille de papier classique, mais pas du tout. C'est une feuille qui contient ce super absorbant pour pouvoir piéger le jus de la viande et le jus des fruits qui n'est rien d'autre que de l'eau. On parlait des inondations.
Oui.
Il y a effectivement maintenant des sacs qui peuvent être utilisés. Par exemple, alors, on va pouvoir utiliser le polyacrylate de sodium pour piéger l'eau d'une inondation. Hein. Il y en a trop, on est d'accord.
Oui.
Par contre, on peut mettre des sacs de sable, par exemple, pour faire des petites digues, pour essayer de dévier un petit peu l'eau. Mm-hmm. Le problème du sac de sable, c'est s'il fait 25-50 kilos, il faut manutentionner un sac qui fait 25-50 kilos. On peut imaginer un sac plus léger, avec le super absorbant, et dès l'instant où on va le mettre dans l'eau, il va s'alourdir puisqu'il va se gonfler d'eau. Et donc du coup, on a des sacs plus faciles à manutentionner au départ. Après, bah, bien évidemment, ils sont gorgés d'eau, mais dans la précipitation,
ça peut être pratique.
Ludovic Fournier, on entend souvent ce nouveau mot et on ne sait pas forcément à quoi ça correspond, le bioplastique.
Ah, alors effectivement, on entend parler de plusieurs choses. On entend parler de bioplastique, on entend parler de plastique biodégradable, et on entend parler de plastique biosourcé. Et souvent, on fait la confusion entre les trois. Bioplastique, ça regroupe à la fois les plastiques biodégradables et les plastiques biosourcés. Biosourcé, on parle de la source du plastique, on parle de à partir de quoi le plastique est-il fabriqué. Est-ce qu'il est fabriqué à partir du pétrole ? Est-ce qu'il est fabriqué à partir du charbon ? Est-ce qu'il est fabriqué à partir des végétaux ?
J'imagine à partir des végétaux.
Biosourcé, voilà.
Donc on revient au tout premier plastique, au plastique de l'origine, d'une certaine façon, puisqu'on repart à la base qui était les plantes.
Alors effectivement, au départ, on était sur les plantes. Alors là, il y a une autre catégorie dont il faudrait parler, mais je ne suis pas sûr qu'on ait le temps, c'est des plastiques artificiels et des plastiques synthétiques. Les premiers à partir des végétaux étaient des plastiques dits artificiels, parce que le polymère, le spaghetti microscopique dont je parlais tout à l'heure, il existe déjà, et c'est l'homme qui va le modifier. Mmh. On parle là de plastique artificiel. Par contre, on peut le fabriquer entièrement, et dans ce cas-là, on va parler de plastique synthétique, et dans les biosourcés, on va parler des plastiques synthétiques fabriqués à partir des végétaux.
Donc ces bioplastiques ou ces plastiques biodégradables, c'est les plastiques de l'avenir. C'est ceux qu'on met déjà en place aujourd'hui, notamment dans les supermarchés, où il reste encore quelquefois parfois des sacs plastiques qu'on doit acheter, parce que sinon on ne nous les donne plus.
Alors,
on parle de ça pour rendre les choses concrètes.
On peut parler de ça. Je vais juste terminer la différence entre biosourcé et biodégradable, parce que c'est vraiment quelque chose, une erreur qu'on fait souvent. Donc biosourcé, c'est qui va être fabriqué à partir des végétaux. Biodégradable, c'est qui va se dégrader facilement et rapidement dans la nature. Et parfois, on confond les deux. On pense que ceux qui sont fabriqués à partir des végétaux sont forcément biodégradables.
C'est pas le cas. Ah, c'est intéressant.
C'est pas le cas.
Bien sûr.
On peut fabriquer des plastiques biodégradables ou non biodégradables à partir des végétaux.
Mais ça, nous, quand on utilise des objets au quotidien, c'est pas marqué dessus biosourcé ou biodégradable. Enfin, biodégradable, oui, mais biosourcé, c'est pas une mention que nous, les consommateurs, on voit.
Alors non, effectivement. Et puis, quand on regarde bien, je vous ai parlé de 322 millions de tonnes de plastique fabriquées en 2015. Si on regarde la part de plastique biosourcé, on est à peu près à 4 millions de tonnes. 4 millions de tonnes sur 322 millions de tonnes. Ça reste pour l'instant.
Mais donc, la solution d'avenir, c'est quoi ? C'est des plastiques biodégradables partout ?
Du coup, je sais pas combien on a de temps. J'aimerais bien, enfin, si c'est possible de développer
Il nous reste 30 secondes là. Donc,
d'accord. Et du coup, si c'est possible de développer un tout petit peu plus.
Bah, comme amorcer
après,
et puis on finira
amorcer,
après.
Ouais.
Donnez-nous envie.
Alors, bah volontiers. Bah, du coup, pour savoir si c'est les plastiques d'avenir, il faut savoir si on peut les fabriquer. On a besoin de fabriquer 322 millions de tonnes de plastique, et il faut à peu près 1 hectare de terre pour faire 1 tonne de plastique.
Et, oui. Et donc, c'est pas forcément la.
Et 322 millions d'hectares, c'est à peu près 6 fois la superficie de la France.
D'accord, bon. Voilà.
Bon, on a un élément de réponse. En quoi les plastiques sont toxiques ? Vous nous répondrez à ça après les informations, Ludovic Fournier ?
On pourra essayer.
Allons, pour essayer.
Vous écoutez RTL.
RTL. À chaque lavage, se détachent de votre chemise des microparticules qui vont dans les stations d'épuration, puis dans les rivières et qui se retrouvent dans la mer.
La curiosité est un vilain défaut.
Une autre source de ce plastique invisible, ce sont les pneus de voiture. Alors, les frottements sur la route forment des poussières qui se retrouvent avec la pluie, même chose dans les rivières. Et tout cela peut représenter entre 15 et 30% du plastique retrouvé dans les océans. C'est énorme.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Voilà un papier signé Virginie Garin sur la pollution en partie liée au plastique. En tout cas, on peut en parler avec notre invité Ludovic Fournier. Alors, on évoquait les bioplastiques, les plastiques biodégradables et biosourcés avec la question de où est l'avenir du plastique. Vous avez commencé par nous dire attention, parce que pour produire du plastique biosourcé, si j'ai bien compris, il faut une grande quantité de terre. Donc déjà là, c'est un premier écueil. Et alors, c'est quoi la suite de la réponse ?
Bah du coup, effectivement, deux points. Le premier déjà, c'est le plastique biodégradable, du coup, n'a pas d'impact ou un très faible impact pour la planète. Donc c'est génial, fabriquons du plastique biodégradable. Mmh. Sauf que du plastique biodégradable, on ne va pas toujours fabriquer du plastique biodégradable. Par exemple, vous avez des lunettes en plastique. Vous n'avez pas du tout envie de biodégrader. Vous faites des prothèses de mains, de pieds en plastique. Vous voulez pas qu'elles se biodégradent non plus. Mmh. Vous allez mettre des fenêtres en plastique. Vous voulez pas qu'elles se biodégradent. Donc on va faire du plastique biodégradable quand il y en a besoin. Et il y en a pas tout le temps besoin. Donc le plastique biodégradable par rapport à la pollution. Effectivement. Oui,
la question, c'est plutôt les plastiques donc, qui ne se dégradent pas et qu'on a besoin de conserver. Quand on n'en a plus besoin, qu'est-ce qu'on fait ? C'est plutôt ça.
Alors, du coup, encore deux points. Le premier, c'était...
Ah non, mais répondez à ma question, puis après on reviendra si vous voulez.
Okay. Hein. Alors, du coup, je vais réécouter la question.
Ah, alors je dis par exemple, quand on a des plastiques que vous avez évoqués, comme les lunettes dont vous parlez et que vous portez, par exemple, ou des membres en plastique, mais qu'on n'en a plus besoin à un moment dans la vie, la question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait ? C'est ne pas en fabriquer, c'est pas une bonne idée, mais
très bonne
plutôt
question.
Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on en a plus besoin ?
Du coup, quand le plastique arrive en fin de vie, globalement, il va lui arriver... quatre choses. La première, c'est qu'il peut rester stocké chez des personnes, chez des gens. La deuxième, c'est qu'il peut rester stocké dans la nature. Là, je parle de stockage entre guillemets, hein, bien évidemment, parce que c'est pas vraiment ce qu'on veut. Il peut également être incinéré pour récupérer de l'énergie. Et puis, on va pouvoir également le broyer, par exemple, pour le couler dans le bitume et en faire des routes. Voilà globalement ce qui arrive au plastique ou le recycler quand on peut.
Et pas le jeter dans la nature, évidemment.
Pas le jeter dans la nature, évidemment.
Oui, parce que c'est quand même une matière qui pollue. On a souvent parlé ici du je sais plus si c'est le 7e, le 8e, le 9e continent de plastique. C'est une préoccupation majeure aujourd'hui.
Alors, on parle effectivement du 7e continent. Là, les chiffres, il y en a beaucoup dans tous les sens. Et clairement, effectivement, il y a des zones marines dans lesquelles on va avoir du plastique qui va se déplacer. C'est effectivement une préoccupation. On peut donc se demander, finalement, le plastique, ça pollue. On peut aussi se dire le plastique c'est toxique. On a par exemple entendu parler du bisphénol, ouais, ce genre de choses.
Oui, qu'on trouvait par exemple dans les biberons dans certaines bouteilles d'eau.
Alors du coup, d'où peut provenir la toxicité du plastique ? Déjà, elle peut provenir de plusieurs choses. Lorsque l'on fabrique le plastique, on va utiliser des petites molécules de base dont on parlait tout à l'heure, et ces petites molécules, elles peuvent être toxiques. Alors quand elles sont toutes les unes derrière les autres, ça pose pas de problème, mais si jamais elles restent séparées, elles peuvent poser le problème. C'était le cas du bisphénol. Le plastique peut également se dégrader quand on l'utilise en libérant des petites molécules, et puis lorsqu'il est utilisé pas convenablement. Et puis enfin, autre problème également, on va ajouter parfois dans les plastiques des additifs qui, eux, peuvent être dangereux.
Par exemple, des additifs, quel type des choses qui nous concernent, nous, au quotidien? Non, pas forcément.
J'ai pas d'exemple en tête, je sais juste que c'est les différentes sources de toxicité du plastique. Ce qui est évident, c'est que d'un côté, on parle de toxicité et de pollution, le plastique va générer, mais de l'autre côté, le plastique va générer, on parlait tout à l'heure, hein, d'appareils, par exemple, de prothèses pour les mains ou de prothèses que l'on va mettre à l'intérieur du corps. Donc ça peut sauver des vies. Mm-hmm. Et puis ça peut éviter aussi la pollution. Prenez les avions ou les moyens de transport. Dans un avion, quand vous remplacez l'aluminium par du plastique, on diminue de 20% la quantité de kérosène utilisée. Donc on amoindrit notre impact sur l'environnement. Donc on parle de pollution du plastique. Ouais. Mais c'est important aussi de voir que le plastique peut aider. Donc c'est pour ça, au Palais de la Découverte, une chose qu'on aime bien faire, je ne suis pas là pour trancher, pour dire si c'est bien, si c'est pas bien, je ne sais pas. Par contre, clairement, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Peut-être faut repenser la façon dont on utilise le plastique.
Alors, un exemple, par exemple, les forces de l'ordre qui n'utilisent plus de menottes en métal, mais ce sont des serflex en plastique. C'est une espèce de liens en fait en plastique qui sont conserves comme ça et qui sont
alors, ils peuvent
absolument
utiliser,
pas.
Effectivement, hein, dans certains cas, on peut utiliser des serflex en plastique, par exemple, pour éviter des pollutions quand quelqu'un a tiré avec une arme à feu. La police scientifique peut avoir besoin de récupérer les résidus de poudre. Pour éviter des pollutions qui pourraient provenir du métal des menottes, on peut mettre des gants aux personnes qui sont arrêtées et puis bloquer les mains avec des serflex, non pas avec des menottes en métal.
Comment on fait pour avoir un plastique qui est hyper résistant, qui est dur c'est quelle technique de fabrication
Ça va être dû, d'une part, aux monomères qu'on utilise, enfin aux molécules de base qu'on utilise, celles qui sont fabriquées à partir des végétaux, du charbon, du pétrole. Ça va être dû également à la façon dont elles sont organisées. les unes par rapport aux autres et à la façon dont on les polymérise. Donc c'est à partir de là qu'on va obtenir plein de propriétés différentes et bien souvent on fait des tests pour savoir ce que va donner la propriété. C'est pas toujours évident.
C'est toujours de la chimie. C'est toujours le chimiste qui additionne tel ou tel type.
C'est toujours le chimiste qui va faire ça. Oui.
C'est pas juste une question de chauffage. Moi j'adore poser les questions les plus basiques possibles, les plus bêtes possibles.
Alors ça va être une question de conditions de transformation de la matière. Ouais. En fonction de comment, de quelles conditions, est-ce qu'on fait sous pression, en milieu acide, en milieu basique, sous la lumière ultraviolette, sous chauffage. En fonction de ces conditions-là, on va réussir à faire ce que ces polymérisations aient lieu et qu'elles aient lieu de manière contrôlée pour qu'on puisse obtenir les propriétés que l'on souhaite.
Merci infiniment Ludovic Fournier. Si on veut tester et comprendre et faire un voyage par exemple au cœur d'un sac poubelle, on se rend au Palais de la Découverte à Paris où vous animez un exposé intitulé « Les plastiques se déchaînent depuis 1937 » et puis il y a aussi une revue, la revue du Palais de la Découverte avec un très bel article sur votre exposé. Merci à vous.
Merci.
Merci.
Alors,
beaucoup.
Si je peux juste ajouter
dernier
quelque
mot,
chose,
allez-y.
Du coup, vu qu'on parlait des 80 ans, effectivement, on fête les 80 ans du Palais de la Découverte. Eh bien, sachez que le week-end du 20-21 mai, on va avoir un week-end exceptionnel où on va fêter l'anniversaire du Palais de la Découverte. La fin de l'anniversaire du Palais de la Découverte.
Et joyeux anniversaire à vous.
Merci.
Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.